Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes tous enseignants.
Il s'appelait Samuel Paty. Il a été tué pour avoir exercé son métier. En cours d'éducation morale et civique, enseignement moral et civique destiné à échanger et débattre afin d'éveiller l'esprit critique de nos élèves.
Je l'ai eu hier en cours et il nous a tous dit bonnes vacances, il nous a fait des blagues pour la dernière heure, pour que ça soit agréable.
C'était un prof super joyeux, très blagueur, il respirait la joie de vivre, quoi.
Il rigolait avec ses élèves. C'était quelqu'un qui parlait beaucoup, donc on savait un peu sa vie, on va dire.
Donc on levait la main, il nous interrogeait, on pouvait parler. Même si c'était pas en rapport avec le cours, il répondait à nos questions.
Souvent, quand on avait un problème dans la classe, il essayait de le résoudre.
Il s'occupait énormément de nous. Et donner vraiment à ce qu'on ait de bonnes notes, à ce qu'on apprenne bien.
C'est un enseignant qui prônait en effet la tolérance, qui aidait nos enfants à grandir, à devenir des citoyens. Tous les enfants avaient le droit au dialogue, au débat, à la seule condition que personne ne sorte fâché de cours.
Ça fait partie du programme d'expliquer aux enfants la liberté d'expression. Il a juste fait son travail.
7 milliards de voisins. Raphaël Constant.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, la montée du radicalisme à l'école en France. Comment enseigner la liberté d'expression? Après l'assassinat par décapitation la semaine dernière de Samuel Paty, professeur d'histoire à proximité de son collège en région parisienne, le corps enseignant est inquiet face à la montée des atteintes à la laïcité dans les établissements scolaires. Samuel Paty a été tué car il a donné un cours d'enseignement moral et civique sur la liberté d'expression à ses élèves de 4e, cours pendant lequel il a montré des caricatures du prophète Mahomet, publiées dans le journal Charlie Hebdo. Ce cours a fait polémique au sein de son établissement. L'épisode a d'ailleurs généré des débats virulents et des menaces, comme en témoignent les multiples publications d'élèves et de certains parents sur les réseaux sociaux. Alors vendredi 16 octobre, à quelques mètres du collège du Bois d'Aulne, Samuel Paty va être assassiné par un jeune homme de 18 ans, russe, d'origine tchétchène, extérieur à l'établissement et qui n'était pas connu des services de renseignement pour radicalisation. Un acte violent qui a plongé la société française dans la sidération. De nombreux rassemblements ont eu lieu et un hommage national sera rendu ce soir à Paris et retransmis sur RFI à 19h10, heure de Paris. Au-delà de cet attentat qui marquera sans doute un tournant, on va se demander ce que l'éducation nationale peut faire pour enseigner la laïcité, pour former et pour accompagner les enseignants dont les cours sont parfois contestés et même instrumentalisés par des groupes radicaux qui profitent de la vitrine que constituent les réseaux sociaux. Alors quels sont les atteintes à la laïcité aujourd'hui au sein de l'école et comment réagissent les professeurs? Comment faire le pari de la liberté de conscience et de jugement de chacun? Et pour en parler avec nous en studio aujourd'hui, Christine Guimonnet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure en lycée et secrétaire générale de l'Association des professeurs d'histoire et de géographie. En ligne avec nous, Jean-Pierre Aubin, ancien inspecteur général de l'éducation nationale et auteur de l'ouvrage « Comment on a laissé l'islamisme pénétrer l'école » aux éditions Hermann. Alix Rivière est aussi avec nous en ligne, vice-présidente de la FCPE de Seine-Saint-Denis, Fédération de parents d'élèves. Et enfin, Frédéric Rollet. Elle est également en ligne avec nous, professeur de lettres et secrétaire général du SNES FSU, le syndicat national des enseignants de second degré.
7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine. 7 milliards de voisins.
Christine Guimonnet, avec cet assassinat, toute la communauté enseignante a été touchée, comme on a pu l'entendre au début de l'émission. Est-ce que la liberté d'expression, la liberté d'enseigner surtout, est en danger, selon vous?
Alors cet assassinat abject, c'est un choc profond pour nous. Pour nous tous, professeurs d'histoire-géographie, parce que Samuel Paty, que nous étions très nombreux à ne pas connaître personnellement, même dans le département du Val-d'Oise, c'est l'un d'entre nous. Et on pense aujourd'hui très fortement à sa famille, aux collègues de son établissement, et puis aussi aux élèves qui vont devoir vivre avec cette espèce de tragédie là qui s'est produite. Ce que je voudrais dire, c'est que ce qui s'est passé, ça dépasse totalement le problème de l'enseignement de la laïcité. Là, on est vraiment dans une configuration qui est très spécifique. Les contestations liées aux cours sont beaucoup plus nombreuses que par le passé. Dans le passé, elles existaient. On a toujours eu des parents qui venaient se plaindre de tel ou tel professeur. Mais quand on discute avec des collègues de tous âges, enfin ceux de ma génération, me disent un petit peu la même chose. Nous, on a connu une période où en fait la laïcité ne faisait pas débat. Où dans un collège, il y avait des élèves de confessions différentes. Tout le monde savait qui était qui. C'était un non-débat et c'était un non-sujet. Il n'y avait pas de dispute, de revendication identitaire, ni religieuse, ni d'autres natures. Et aujourd'hui, on sent bien qu'il y a des changements progressifs et une sorte d'hypersensibilité à ce qui est religieux ou culturel ou d'origine ethnique. Lorsque les enfants arrivent à l'école, quel que soit leur âge, pour nous, ce sont des élèves. C'est-à-dire qu'on ne les considère pas en fonction de leur origine réelle ou supposée. Ils sont là pour apprendre, pour acquérir des connaissances, pour échanger avec l'autre. Être en classe, c'est se décentrer. C'est-à-dire qu'on va travailler sur des domaines divers, dans diverses disciplines, pour accéder à la connaissance.
S'ouvrir.
S'ouvrir. Et l'objectif, c'est la circulation des savoirs. Le travail qu'on mène avec les élèves, c'est une fenêtre ouverte. De la liberté dans une vie qui n'est pas forcément toujours plaisante chez chacun. Donc c'est un sas pendant lequel ils vont pouvoir se concentrer sur les apprentissages. Ceci étant, l'école n'est pas un sanctuaire, elle ne l'a jamais vraiment été, et nous prenons nos élèves dans leur globalité, c'est-à-dire qu'ils arrivent avec leur vécu, leur joie, leurs enthousiasmes, leur stress, leurs angoisses, leur détresse, leurs problèmes familiaux, et ils savent qu'ils peuvent compter sur nous, avoir confiance en nous, parce qu'on est là pour les instruire, mais pas uniquement.
Frédéric Rollet, un professeur a été tué, il enseignait la liberté d'expression. Est-ce que vous partagez la conviction du président de la République qui a dit « ce n'est pas un hasard si c'est un enseignant qui a été abattu ».
Oui, tout à fait, parce que si on se souvient de la propagande absolument abjecte de l'État islamique en 2015, les enseignants étaient explicitement cités. Il y avait des appels à des assassinats d'enseignants parce que leurs promoteurs avaient très bien compris que l'école était vraiment au centre de la nation française, était l'endroit où justement on essayait d'éveiller ses consciences, de faire en sorte que la laïcité dont on déforme quelquefois le sens, qui est vraiment en fait un principe organisateur d'une république démocratique chez nous, c'est de permettre à chacun après de se faire son opinion, de vivre sa foi, mais en laissant l'école justement à l'abri de toutes les pressions. Et donc ils avaient bien compris ça. Donc je pense que c'est pas un hasard effectivement si c'est un enseignant qui a été tué de manière aussi horrible, parce que on a, d'une certaine façon, ils mettent en valeur le rôle central de l'école.
Alix Rivière, comment réagissent les parents d'élèves? Parce que dans l'affaire de Samuel Paty, des parents d'élèves se sont plaints du cours donné par le professeur, ce qui pose aussi la question du rôle des parents d'élèves dans l'école, dans la coéducation.
Alors, ce qu'il faut bien distinguer, c'est que à l'école, vous avez les représentants de parents d'élèves et les parents d'élèves. Pour répondre directement à votre question, et pas, je ne vais pas en dire plus de tous les hommages qui ont été faits. Donc, le papa qui s'est exprimé sur cette vidéo est un parent d'élève qui n'est pas représentant. Ça veut dire que c'est un parent, ce qu'on qualifierait de lambda. Ce qu'il a fait, nous, on a des situations à gérer comme celle-là, mais pour d'autres sujets, de façon très très régulière. La place des parents d'élèves, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, les parents doivent être formés à ce type de situation. Et nous, tout au long de l'année, on le fait. Bon, là, il se trouve que cette situation-là est évidemment une première, malheureusement. Et que nous, on a à cœur de toujours réexpliquer ce qu'est la laïcité quand nous sommes confrontés à cela. Pour preuve, à la rentrée, nous allons éditer un livret sur la laïcité expliquée aux parents d'élèves, de telle sorte à ce que les choses soient un petit peu mieux comprises de tous, parce que l'exemple flagrant de de cet élément du programme qui est présenté aux élèves, c'est revenu, moi je l'ai vécu sur le côté génocide arménien, également sur le darwinisme, et ça c'était au début des années 2000 et durant les années 2010, au moment de 2015 même.
Alix Rivière, on va vous rappeler parce que la ligne n'est pas très bonne, on vous rappelle tout de suite. Je me tourne vers Jean-Pierre Robin qui est également en ligne avec nous. Dans votre ouvrage paru en septembre, vous dénoncez la montée du radicalisme dans les établissements scolaires. Mardi 13 octobre, vous évoquiez les atteintes à la laïcité à la Sorbonne à Paris lors du séminaire national des coordonnateurs des équipes Valeurs de la République. Aujourd'hui, quelle est votre réaction, Jean-Pierre Robin?
Par rapport à l'assassinat?
Bien sûr.
Oui, bah l'effroi, l'horreur absolue, évidemment. Mais comme l'a dit Frédéric Rollet tout à l'heure, nous étions prévenus par le texte de Daesh auquel elle a fait allusion, qui appelait explicitement au meurtre des enseignants français. Mais ce qui est intéressant dans cet article, au-delà de la conclusion donc, qui est celle-ci, c'est qu'il y avait une analyse extrêmement détaillée de l'ensemble des raisons pour lesquelles il fallait tuer les enseignants français. Et donc on retrouve dans ces quelques pages la typologie, en gros, qui était la nôtre dans notre rapport d'inspection générale de 2004. Hein la théorie de l'évolution, l'éducation sexuelle, l'histoire, la laïcité, l'étude de la musique, dessiner des personnages, etc. Tout ceci était l'abomination pour ces islamistes qui justifiaient de devoir s'attaquer à la France, à l'école française, jusqu'à aller à un appel au meurtre.
Et dans un sondage IFOP de 2018 pour le Comité national d'action laïque sur les atteintes à la laïcité, il apparaît d'ailleurs, Jean-Pierre Robin, que l'histoire était la matière la plus contestée dans le secondaire. Pourquoi et quelles sont ces atteintes à la laïcité aujourd'hui au sein de l'école parmi celles que vous venez de nous expliquer?
L'histoire est la matière la plus contestée, mais c'est loin d'être la seule. La biologie, l'éducation physique et sportive aussi arrivent. Une très forte proportion d'atteinte à la laïcité, tout ce qui touche évidemment dans le programme de biologie, et non seulement à la théorie d'évolution, mais également à l'étude de la reproduction, à l'étude de la sexualité et à la contraception. Tout cela a fait l'objet de contestations. Maintenant, ces atteintes à l'enseignement ne sont pas, c'est pas les seules atteintes, il y a beaucoup d'atteintes aux règles de la vie scolaire. Hein. Et en particulier autour de l'alimentation, 40% des enseignants disent avoir observé des incidents ou des contestations à propos de l'alimentation à la cantine. Les sorties scolaires sont très contestées aussi. 30% des enseignants signalent des incidents lors des sorties scolaires. J'en relate d'ailleurs dans mon livre un certain nombre qui toujours suscitent l'irritation évidemment des enseignants qui sont responsables de ces sorties, mais aussi les violences sur les filles, hein, qui sont bon, l'antisémitisme. J'ai presque envie de dire un classique antisémitisme, puisque moi, c'est à partir de 1996 que je prends conscience que les élèves juifs sont expulsés des établissements publics français de fait des violences verbales et physiques qu'ils subissent de la part de leurs condisciples musulmans, de certains d'entre eux en tout cas. Et donc aujourd'hui, on sait que les deux tiers des élèves juifs ont dû quitter l'enseignement public.
Christine Guimonet, vous avez commencé à nous le raconter, mais en quoi les enseignants sont confrontés à l'hostilité de certains élèves, à la remise en question de la laïcité à l'école? Vous, de quoi vous êtes témoin depuis plusieurs années?
Alors c'est très variable. Je voudrais juste dire quelques mots pour compléter ce qu'a dit Frédéric Rollet. La laïcité, c'est un principe fondateur de notre République française, hein, la République, la racine, c'est res publica, c'est la chose publique, donc normalement ça devrait concerner tout le monde. Et l'histoire nous fournit des clés, des ressources pour pouvoir expliquer des phénomènes présents en remontant dans le passé, de manière à ce que les élèves comprennent que tout n'est pas figé en histoire et qu'il y a beaucoup de processus qui s'emboîtent, il y a beaucoup d'évolutions et que les religions dont on parle, ce ne sont pas des sortes de pavés qui tombent du ciel à tout créé, tout figé, tout prêt. Et le rapport avec les parents d'élèves, après on reviendra sur les atteintes plus précisément, le rapport avec les parents d'élèves est fondamental. Les élèves passent une partie de leur temps dans leur famille et de nombreuses heures de la semaine avec nous. Donc la coéducation dont parlent les associations de parents d'élèves, ça ne doit pas être un mot creux. Et autant c'est nécessaire que nous ayons des relations pour qu'on puisse travailler ensemble, autant il est totalement inadmissible que des parents, qu'ils soient représentants ou qu'ils ne soient pas représentants, contestent le contenu des programmes, contestent les méthodes pédagogiques qui sont utilisées par les professeurs, parce que le programme s'applique à tout le monde. Un programme scolaire ne fera jamais consensus. En histoire, on le sait très bien. Mais c'est l'histoire qui est apprise par tout le monde. Ce n'est pas forcément l'histoire de tout le monde, mais c'est celle qui est apprise par tout le monde. Et on va toujours trouver, quand on a cours, des ouvertures, des passerelles pour répondre à des questionnements, faire travailler les élèves, de manière à ce qu'ils se sentent pleinement dans la discipline qu'on essaie de travailler avec eux. Je vous donne un exemple très précis.
Les engager.
Voilà, c'est ça que... Lorsqu'on fait un petit peu de la généalogie historique familiale, on peut travailler avec les élèves pour qu'ils puissent trouver un petit peu une façon de réinsérer le parcours de leur famille dans l'histoire au long cours. Alors les atteintes à la laïcité, donc et toutes les atteintes dont on discute là, c'est très variable en fonction des territoires. Donc on est dans un phénomène très sérieux qu'il ne faut ni généraliser. Ni passer sous silence et ni minimiser. Il y a des territoires et des établissements dans lesquels tout se passe bien et d'autres dans lesquels c'est plus compliqué. Et les revendications ne viennent pas exclusivement des familles de confession musulmane. Il faut pas le croire. Bon, il y a des revendications multiples qui sont liées à la religion, qui sont liées à une nationalité d'origine, qui sont liées à des sensibilités. Et en fait, l'histoire, c'est conçu pour faire bien la différence entre les savoirs qu'on va faire circuler, les opinions et les croyances. Et la spécificité de l'historien, c'est qu'il va porter un regard d'historien sur les savoirs, un regard d'historien sur les opinions et un regard d'historien sur les croyances. Donc, il est naturel, lorsque l'enfant est en classe avec le bagage culturel familial, qu'il puisse y avoir une sorte d'interrogation lorsqu'il apprend que le Coran, c'est la parole de Dieu, et qu'on puisse expliquer en histoire qu'à un moment donné, un des califes a demandé à ce qu'il y ait une version définitive du texte, et pas une autre, parce que plusieurs versions circulaient. Donc c'est en faisant un petit peu d'anthropologie religieuse et culturelle qu'on peut essayer d'avancer. Et là, c'est pareil, il n'y a pas de tabou dans l'enseignement de l'histoire. Il faudrait arrêter d'imaginer qu'on n'enseigne pas l'histoire des religions, l'histoire du fait religieux. En tant qu'élève, j'avais cet enseignement. Et depuis que j'enseigne, j'ai toujours travaillé pour que mes élèves de collège ou mes élèves de lycée, dans le cadre des programmes et aussi dans des moments d'ouverture, parce que partir des questionnements des élèves, ça permet de ressentir où sont les besoins. Où sont les besoins, où sont les ignorances, où sont les confusions. Et en fait, on est là pour mettre de la clarté dans la confusion et de la vérité historique dans des opinions ou des croyances. Donc voilà, c'est le travail qu'on fait.
Entre septembre 2019 et mars 2020, on compte 935 signalements de contestation d'enseignement ou de provocation considérées comme des atteintes directes aux valeurs de la République. Frédéric Rollet, est-ce qu'il y a un risque de l'autocensure des professeurs? Est-ce qu'ils parlent de cette difficulté de l'enseignement ou est-ce qu'ils restent isolés?
Ils parlent de cette difficulté, ils disent à la fois leur inquiétude à titre personnel, mais aussi leur volonté de justement continuer à faire leur métier, avec évidemment un surcroît de demandes à la fois de protection fonctionnelle de la part de l'institution, de vraiment rigueur par rapport à toutes les entraves qui peuvent être faites que ce soit par des organisations religieuses, des associations ou autres, sur l'exercice de notre métier. Mais globalement, tout le monde, enfin ça vient d'être dit par la collègue, ils affirment tous que notre rôle, c'est justement de faire qu'il n'y ait pas d'adaptation selon les publics, qu'il y ait des programmes nationaux. Ensuite, ce qu'on fait, et c'est le La richesse du travail enseignant, c'est de choisir des supports pédagogiques qui peuvent être différents, mais avec les mêmes contenus, les mêmes objectifs de transmission d'un certain nombre de savoirs.
On va parler des contenus justement pédagogiques dans un instant et on poursuit l'échange sur la laïcité et la liberté d'expression à l'école. Mais d'abord, je vous propose Des Humains de Erwan et Salif Keïta sur RFI.
Des violences vides du vivant, les gens à grand rivés sur écran, hypnotisés comme des morts vivants. Mutants dépités, déportés sur bateaux, des mâts pétrifiés devant la défaite annoncée. Les yeux violés d'images vilaines, devant ta variée l'âme délavée dans la lessiveuse de billets. Chaque jour qui vient, un nouveau phare s'éteint et rejoint le chemin qui mène à l'autoroute du Vendin.
Des humains déshumanisés. Des humains déshumanisés.
Nos vies avalées, dévalues au gré des marées qui ramènent les corps sur les barbelés. Des armées sans hommes avilissent des humains sans âme dont la flamme s'est diluée. Le monde se lisse, hisse les parvenus au sommet d'un palais qui s'est vidé. Des humains désœuvrés amassés dans l'impasse face au gouffre qui s'ouvre sous nos pieds.
Des humains tétanisés. Des humains tétanisés.
Et les femmes là, et ton ami là, mon solo gardien en terre, les maillons et bas, et pas la Syrie, et pas la.
Dévalue au gré des marées qui ramènent les corps sur les barbelés. Des armées sans hommes avilissent des humains sans armes dont la flamme s'est diluée. Le monde se lisse, hisse les parvenus au sommet d'un palais qui s'est vidé. Des humains désœuvrés amassés dans l'impasse face aux gouffres qui s'ouvrent sous nos pieds.
Vous écoutez 7 milliards de voisins sur RFI, émission consacrée aujourd'hui à la montée du radicalisme à l'école, en compagnie de Jean-Pierre Aubin, ancien inspecteur général de l'éducation nationale et auteur de « Comment on a laissé l'islamisme pénétrer à l'école ?» Christine Guimonet, professeure en lycée et secrétaire générale de l'association des professeurs d'histoire et de géographie, Frédéric Rollet, secrétaire général du syndicat de professeurs SNES-FSU et Alix Rivière, vice-présidente de la FCPE de Seine-Saint-Denis, fédération de parents d'élèves. Alors comment enseigner l'éducation civique et morale dans un climat devenu plus que sensible? Jean-Pierre Aubin, je vous donne la parole. Pourquoi on n'a pas suffisamment écouté les témoignages, puisque vous expliquez bien dans votre ouvrage que ce phénomène n'est pas nouveau et qu'il s'est ancré?
Oui, mais parce qu'on a fait preuve de beaucoup de naïveté, et qu'on n'avait d'ailleurs pas beaucoup d'informations dans les années 90 sur ce qui était en train de se passer. Sinon, un certain nombre de sociologues et d'historiens depuis qui ont analysé le phénomène de la pénétration de l'islamisme dans les banlieues à partir de la guerre civile en Algérie, l'arrivée des prédicateurs dans ces banlieues fréristes et salafistes, dont a diffusé. Et en fait, dans l'école, dans les classes, on aperçoit que la traduction chez les jeunes aujourd'hui de cette imprégnation politico-religieuse qui fait le quotidien de certains élèves. Bon, lorsqu'on parle de parents d'élèves, il faut bien savoir à qui on a affaire. Est-ce que c'est un parent qui est soucieux, ému par telle ou telle partie du programme et qui vient s'informer ou discuter, et il faut à ce moment, celui-là, il faut évidemment le recevoir et dialoguer avec lui. Est-ce que c'est un militant qui vient provoquer un incident qui vient contester pour des raisons politiques et qui fait tout un buzz sur les réseaux sociaux, ce qui s'est passé précisément là. Je pense qu'on n'a pas pris la mesure de qui était ce personnage, de ce qu'il venait faire et de la manière dont il fallait le traiter. Je pense qu'on fait encore preuve de beaucoup de naïveté sur l'islamisme et son imprégnation parmi les jeunes. Il y a toute une série d'études qui viennent de paraître ou qui sont parues qui montrent l'impressionnante diffusion de cette idéologie parmi les jeunes musulmans de France et donc parmi nos élèves.
On va reparler du rôle des réseaux sociaux un peu plus tard dans l'émission. Alix Rivière, on vous a retrouvé. D'après vous, comment faire le travail de lien et d'explication justement des deux côtés, comme vient de l'expliquer Jean-Pierre Aubin ?
Ah, mais ce que je partage complètement ce qui a été dit par les trois intervenants précédents, et notamment sur le rôle du travail de l'historien, donc d'un travail scientifique, hein, qui est à démontrer en permanence, puisque l'histoire est en mouvement, comme le droit ou n'importe quel autre sujet sur lequel on creuse. Et donc là-dessus, c'est un lien en permanence quotidien. Quand on est saisi de situations comme celle qui a existé, en général, on demande des écrits, de telle sorte à ce que les choses soient un peu plus claires. Après, derrière, c'est un travail de dentelle, d'en permanence avoir un dialogue avec des parents qui ne comprennent pas effectivement une partie du programme. Nous, ça nous est déjà arrivé, je vous le dis, sur le génocide arménien et d'Arménis, et à chaque fois, on a pris le temps d'expliquer chaque chose comme elle devait l'être, en association bien sûr avec les professeurs. Et ce qu'on a noté aussi, c'est quand les professeurs, par exemple sur l'histoire du génocide arménien, qui n'était pas contesté ouvertement, mais qui était plutôt dans le silence et le déni, les professeurs de la matière du collège se sont réunis, ont discuté, ont mis au point une stratégie commune et ont fait bloc face aux élèves pour expliquer les choses avec tous les éléments qui ont été décrits par les trois intervenants précédents. Donc c'est possible, mais ça demande effectivement un travail constant. Mais je pense que c'est un travail constant finalement de l'humanité de travailler sur ses vicissitudes. Oui, sa méconnaissance et son ignorance.
Frédéric Rollet, pour accompagner les enseignants, le ministère de l'Éducation a créé un guide de la laïcité, des fiches pratiques en cas de refus de l'élève de participer à une activité scolaire ou en cas de contestation des contenus d'enseignement. Est-ce que c'est utile ? Est-ce que c'est concret ? Est-ce que les professeurs s'en servent pour cette discipline qu'est l'enseignement civique et moral ? Ou est-ce que c'est hors sol ?
Alors, bon, d'abord, ça ne concerne pas l'enseignement civique et moral. Moral et civique, d'ailleurs, dans l'ordre. Puisque ça a été dit par Jean-Pierre Aubin, il y a d'autres disciplines, l'éducation physique et sportive, les sciences et vie de la Terre, mais parfois le français aussi, quand vous avez un certain nombre, vous étudiez l'encyclopédie, quand vous parlez du déisme, quand vous replacez les choses dans une perspective, historique, ça suscite des contestations. Alors, il peut y avoir deux types de choses. Ce que nous souhaitons avoir, c'est des documents pédagogiques qui donnent de façon approfondie ce qu'est la laïcité, qui rappellent justement dans toutes ses dimensions, parce qu'on a des fois, quelquefois des discours un peu rapides sur le sujet. Et puis, quelques questions concrètes. Ça a été évoqué, un élève qui refuse de s'asseoir à côté d'une petite fille, j'ai eu ça récemment dans mon établissement, qui refuse elle voulait lui prêter un stylo, il n'a pas voulu non plus prendre le stylo, enfin, etc. Donc là, c'est des choses très très concrètes, et effectivement, il peut y avoir des conseils. Ce qui est d'autant plus important, c'est qu'on est, dans ces cas-là, une unité de l'équipe éducative, que depuis le chef d'établissement jusqu'au personnel de vie scolaire et l'ensemble des... que vraiment la réponse soit collective. Ça a été dit par madame qu'on reçoive les familles, par exemple, qui contestent et qui, heureusement, dans la plupart du temps, quand on leur explique que justement, il ne s'agit pas de stigmatiser quiconque, que le travail qu'on fait, c'est justement pour aussi combattre les discriminations dont sont victimes un certain nombre de nos concitoyens, y compris en France, elles le comprennent. Ensuite, si les cas se compliquent, ce qui manque quelquefois, c'est une certaine réactivité de l'institution pour protéger justement ses personnels.
Vous posez justement la question de l'institution. Quelle réponse donne le chef de l'établissement, le recteur, quand un professeur se trouve face à une remise en cause de l'école de la République ? Est-ce que c'est un angle mort aujourd'hui, Jean-Pierre Aubin ?
Et depuis que Jean-Michel Blanquer est arrivé rue de Grenelle, bon, c'est sûr qu'il a pris la dimension du problème, je pense, et il a mis en place un dispositif auquel vous faisiez allusion tout à l'heure, dans les académies, donc un référent à la laïcité, une équipe de formateurs qui est traité de traiter le plus rapidement possible les atteintes à la laïcité qui lui sont signalées, et d'aider les enseignants à les surmonter et à les traiter. Le problème, c'est que bon, la plupart des atteintes à la laïcité, de ces faits, de ces incidents, passent sous le radar de ce dispositif. Je prends un seul exemple. Le sondage de 2018 auprès d'un échantillon représentatif des enseignants français, d'enseignants publics, pardon, nous révèle que 37% des enseignants déclarent s'être auto-censurés. Oui, c'est-à-dire non pas... pour éviter des incidents avec les élèves, préciser la question. Et donc, évidemment, par définition, un enseignant qui s'auto-censure ne va pas aller le dire au rectorat. Et donc, il y a beaucoup de ces faits, aujourd'hui, soit sont traités d'une manière ou d'une autre au niveau de la classe ou au niveau de l'établissement, et n'ont pas besoin d'être signalés, mais néanmoins, ils ont eu lieu. Soit ils sont dissimulés. Et ce qu'on voit là, au niveau des chiffres du ministère, c'est que c'est la partie émergée d'un iceberg. Donc il faut bien prendre conscience aujourd'hui que ce phénomène des méfaits de l'islamisme parmi les jeunes, et donc dont les enseignants subissent les contre-coups, est un phénomène qui s'est généralisé à l'ensemble de la société française, évidemment, qui prend un tour plus aigu là où les quartiers se sont ghettoisés et là où les musulmans sont concentrés. Mais moi, j'ai eu des témoignages dès 2004, voilà, dans un petit bourg de l'Ardèche, une principale de collège qui me dit, monsieur l'inspecteur général, voilà, j'ai deux élèves juifs, mais je suis la seule à savoir parce qu'ils ne pourraient pas rester dans l'établissement. Voilà. On était en 2004 et dans un bourg de l'Ardèche. Et donc cette idéologie, à partir du milieu des années 90, n'a fait que prendre de l'ampleur et se diffuser. Il y a un excellent livre qui est apparu là-dessus, c'est le livre de Bernard Rougier, hein, « Les territoires perdus de l'islamisme », qui montre à travers de nombreux exemples comment cette idéologie s'est implantée progressivement et n'a fait que se développer. Notamment parce que nous avons été aveugles sur ce qui se passait.
Notamment à l'école. Christine...
Notamment à l'école, et je crois qu'il faut outiller aujourd'hui les enseignants. Pour... Oui, les former en leur donnant des connaissances tout d'abord sur ce qui se passe et sur leurs élèves.
Christine Guimonet, aujourd'hui, quels supports de cours vous utilisez justement? Quel contenu? Comment on adapte justement ce discours à la maturité, à l'âge des élèves?
Alors c'est très variable. Je reviens très rapidement sur ce qui a été évoqué tout à l'heure. Quand il y a un incident, quel qu'il soit, dans un établissement scolaire, un lycée, un collège, c'est une micro-société. Donc forcément, on va trouver toutes sortes d'individualités. Et la cohésion qu'il doit y avoir entre nous, c'est-à-dire à l'intérieur d'une équipe pédagogique, d'une classe, à l'intérieur de l'établissement tout entier, c'est fondamental. L'accompagnement des jeunes collègues qui débutent dans le métier par des professeurs qui sont un petit peu plus âgés, plus expérimentés, c'est fondamental aussi. Il ne faut pas que les collègues restent isolés. Quand il y a un problème, il faut en parler entre nous. Il ne faut pas avoir peur. N'importe qui peut être confronté à un souci en classe.
Donc plutôt un échange de compétences que des formations verticales.
Alors,
en fait.
Pour les formations, en fait, il y a plusieurs choses différentes. Les plans académiques de formation offrent déjà toute une série de modules. Bon. Mais il faudrait, comme on le fait dans l'Académie d'Aix-Marseille, qu'il y ait une formation qui parte du terrain. C'est-à-dire que les professeurs reçoivent une sorte de message où on leur demande quels sont leurs besoins. Parce que d'un collègue à l'autre, les besoins ne sont pas forcément les mêmes. Et à partir des besoins exprimés par les collègues, on va construire le parcours de formation. La première formation que doit avoir un professeur qui est diplômé de l'université, qui a un concours, sa première formation continue, c'est la lecture. Bon, il y a des ouvrages, des revues, des comptes rendus de colloques, beaucoup de choses qui maintenant sont sous format numérique en vidéo. Il y a des formations qui sont assurées dans les académies avec des choses de grande qualité. Les associations disciplinaires professionnelles organisent aussi des journées d'études, des journées de formation. Donc, il y a de quoi. Le souci pour certains collègues, c'est parfois de savoir où se trouve l'information dont ils ont besoin. Donc, il faudrait par exemple que les fameux vademécum de la laïcité, là, quand il y a des cas concrets, que ce soit dans tous les cabinets des différentes disciplines, dans tous les établissements, qu'on puisse en discuter entre nous. Et pour faire un lien qui est plus précis, plus proche avec les parents, la réunion de rentrée, quand on est professeur principal, c'est fondamental aussi. On voit le maximum de parents et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on devrait leur expliquer? Pas uniquement le fonctionnement de la structure collège ou lycée, mais qu'est-ce que leurs enfants vont apprendre?
Voilà, c'est exactement ça. Est-ce que vous expliquez aux parents quel est le contenu de votre cours?
Oui,
que vous allez leur apprendre.
Et je ne suis pas du tout isolée dans ce cas. Hein. On est, je pense, assez nombreux à leur expliquer. Bon, vous voyez, cette année, on va travailler en histoire et en géographie sur ces thématiques-là. Bon, les projets pédagogiques que nous avons envisagés sont ceux-là. Donc, ça peut être des enquêtes que les élèves ont menées, ça peut être de la recherche documentaire. On va aller visiter telle ou telle exposition pour travailler sur les cultures, les religions. Il y a des musées ressources. Hein. On peut les emmener dans un musée des arts asiatiques, l'Institut du monde arabe, le musée d'art et d'histoire du judaïsme. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Il y a des ateliers pédagogiques auxquels on peut inscrire les élèves, il y a énormément de possibilités. On doit aussi, et ça on en parlera après pour les réseaux sociaux, mais le type de support qu'on peut utiliser, c'est très variable. Donc il y a des documents qui sont des textes, des documents iconographiques. Si vous prenez par exemple en histoire du 19e siècle, quand on travaille sur qu'est-ce que c'est que l'opinion sur le temps long, l'opinion politique, manifester ses opinions. Bon, vous allez travailler sur la presse et on se rend compte que la caricature, ça se développe à partir du 18e siècle et qu'il y en a de plus en plus et que certaines sont très intéressantes à étudier et que celles de la charnière fin 19e, début 20e, au moment où on a cette espèce de combat assez violent entre les cléricaux et les anticléricaux, se fait aussi par l'intermédiaire des journaux, des journaux d'opinion et des caricatures. Et les caricatures anticléricales sont d'une violence extrême. Il y a des prêtres qui sont dessinés sous forme de porcs, de singes, des religieuses qui sont accompagnées chacune d'une oie. Bon, donc c'est assez rude comme contexte. Un exemple qui est facilement utilisable, c'est le film qui avait été tourné à la demande de l'Assemblée nationale. Ça s'appelle La Séparation. Et là, on voit des acteurs qui, en fait, jouent les hommes politiques qui ont participé à l'élaboration du projet de loi. Donc, on voit Jean Jaurès, on voit Aristide Briand, Paul Doumer. Et on se rend compte à ce moment-là qu'on a un des députés qui est un prêtre. Et ça montre bien à quel point le projet de séparation des Églises et de l'État fait débat, non seulement dans la société, mais fait débat également à l'intérieur de l'Assemblée. Qu'on a d'un côté une extrême gauche qui est très virulente et qui est très hostile à l'idée de religion en elle-même. De l'autre côté, on a les monarchistes et donc l'Action française, donc des partis politiques dont les positions sont tout à fait inconciliables. Et le but de cette loi, c'est de trouver un compromis pour qu'elle soit votée à une majorité suffisamment large.
Ces derniers jours, on a entendu toutes sortes de réactions, professeurs, syndicats, politiques, mais aussi élèves. Je vous propose d'écouter le témoignage de Pape Biramsi, 12 ans, qui est venu samedi dernier devant les portes de son collège endeuillé du Bois d'Aulne, en région parisienne. Il a partagé son émotion à un journaliste sur place après avoir appris la mort de Samuel Paty.
J'ai pleuré, parce que c'est très très grave qu'on peut se faire assassiner. Alors qu'on dévoile une caricature. C'est très très grave. Il aurait très bien pu mettre la caricature et voilà. Non, au contraire, lui, il a quand même une bienveillance. Il a dit « Je vous propose de sortir car ça peut vous choquer, vous marquer. » Les gens, ils disaient que c'était un raciste, voilà, qu'il n'aimait pas les musulmans. Enfin, Mais des choses vraiment qui n'avaient strictement rien à voir avec ce qu'il a projeté sur le tableau. Enfin, je me dis, si maintenant on montre juste à ses élèves une caricature, bim, allez, on devient un raciste, on peut plus rien dire du coup. Et ça, c'est pas possible en fait. C'est plutôt pour l'ensemble du collège que je suis inquiet. Je trouve qu'il faut pas leur donner ça. Je trouve qu'ils méritent pas ça. Je trouve qu'il faut, au contraire, continuer encore à apprendre. Sinon, les terroristes, eux, ils vont gagner. Ils vont dire, voilà, on les a tués et eux, maintenant, ils apprennent plus, ils veulent plus revenir. Non, au contraire, il faut continuer à venir, faut pas lâcher. On a le droit de parler, on a le droit de... On a le droit.
Il faut continuer à venir, il faut continuer à venir apprendre. Frédéric Rollet, comment expliquer aux enfants cette forme de violence? Comment réparer et faire que les enfants gardent confiance dans les valeurs républicaines de l'école?
Alors ça va être tout le travail des enseignants lundi. D'ailleurs c'est pour ça qu'on va demander qu'on ait un temps banalisé pour toutes les équipes pour se mettre un peu échanger, confronter les réactions, les analyses, voir comment on va parler aux élèves, parce qu'on ne parle pas de la même façon à un élève de maternelle en lycée ou en collège. Là ce que vient de dire ce jeune est très beau, je trouve. C'est l'idée, on peut mourir pour un dessin, c'est quand même absolument hallucinant, mais ça veut dire qu'il y a vraiment un travail à faire. On a parlé des parents d'élèves. Moi, je trouve qu'il faut toujours faire attention à ne pas culpabiliser qui que ce soit. On se plaint trop souvent que certains parents ne viennent pas rencontrer les enseignants. Donc, le problème, c'est de savoir comment on a les outils du dialogue, d'engager cette discussion. Dans le cas précis du meurtre de Samuel Paty, j'allais dire, ça dépasse aussi la question de l'école, puisque ce collègue emmenait, par exemple, ses élèves à l'Institut du Monde Arabe. Il avait des cours régulièrement. Là, il est assassiné par un jeune Tchétchène qui, au nom d'un islam politique, qui veut justement essayer d'imposer en France des lois qui soient supérieures aux lois de la République. Donc, ça ouvre évidemment d'autres questions sur le contrôle des réseaux sociaux, sur le contrôle de
Justement, je voudrais vous faire réagir, Alix Rivière, sur le rôle des réseaux sociaux très rapidement. Vous êtes là? Oui.
Oui, absolument.
Allez-y, on vous écoute.
La problématique, c'est que tout au long de nous, sur les trois dernières années, on a vu de plus en plus d'appels de parents arriver sur la problématique du cyberharcèlement et des réseaux sociaux. Visiblement, certains pays ont pris la mesure de la chose et ont lancé un appel le 15 mai dernier suite au massacre de Christchurch, donc avec 26 pays. Ce qui est intéressant, c'est que évidemment la France est dedans, mais pas seulement des pays occidentaux. Vous avez l'Inde, l'Indonésie, le Sénégal. Donc il y a une conscience mondiale de cette difficulté à réguler les réseaux sociaux.
Contre les contenus en ligne extrémistes. Absolument. Et violents.
Et la problématique, c'est qu'en plus, le documentaire Facebook derrière les écrans de fumée a révélé un certain nombre de choses qui ont structuré la pensée anxiogène qu'on pouvait avoir sur ces réseaux sociaux. Donc maintenant, je pense que c'est à Emmanuel Macron de relancer ce processus pour trouver une organisation mondiale là-dessus. L'enjeu, c'est évidemment la modération. Est-ce qu'on veut d'un Google China ou d'un ersatz? Je ne pense pas que ce soit l'opinion publique française sera favorable. Donc dès lors, comment est-ce qu'on fait pour modérer de façon intelligente ces forums par thématique?
Et sensibiliser les enfants aussi à l'école sur la place des enjeux des réseaux sociaux, peut-être.
Mais il existe à l'école, nous, ce dont on a pris conscience au cours des trois dernières années, parce qu'on a cherché avec l'éducation nationale, évidemment les professeurs, il y a énormément de ressources. La difficulté, c'est de canaliser la ressource et de la faire redescendre à l'endroit. Là, tout ce qui a été évoqué par Christine Guimonnet le prouve. C'est-à-dire qu'il faut un temps long aussi pour expliquer les choses. Là, actuellement, par exemple, en CAP, il reste une demi-heure par semaine aux élèves pour de l'histoire, géographie, éducation civique.
Je suis obligée de vous couper, Alix Rivière, pour terminer notre émission. Je voudrais le mot de la fin de Jean-Pierre Robin. Comment protéger cette discipline d'après vous? Comment s'en sortir très rapidement?
Bon, je crois qu'il faut prendre conscience qu'on est dans un combat de très long terme contre cette idéologie, qui est d'ailleurs un combat mondial. La France n'est pas au centre de ce combat. Et qu'il faut absolument et de toute urgence outiller les enseignants pour qu'ils comprennent ce qui se passe tout d'abord. Donc en termes de connaissance de ce que vivent, de ce que sont ces élèves, de ce qu'ils vivent, de ce qui se passe dans la société française à ce propos. Deuxièmement, il faut leur donner des compétences pratiques pour traiter les incidents qu'ils peuvent avoir dans leur classe ou plus généralement dans l'établissement scolaire. Il faut les faire travailler sur des cas qu'ils ont vécu ou des cas que des collègues ont vécu pour essayer de trouver les moyens les plus pertinents de faire face et de savoir comment on traite ces problèmes, seuls ou collectivement.
Et d'accompagner les enfants, les élèves. Merci infiniment à tous. Jean-Pierre Robin, ancien inspecteur général de l'Éducation nationale et auteur de « Comment on a laissé l'islamisme pénétrer l'école ». Christine Guimonnet, professeure en lycée, secrétaire générale de l'Association des professeurs d'histoire et de géographie. Frédéric Rollet, secrétaire général du syndicat professeur SNES-FSU. Et Alix Rivière, vice-présidente de la FCPE de Seine-Saint-Denis, Fédération des parents d'élèves. Je vous rappelle à 19h10, heure de Paris, ce soir, émission spéciale à l'occasion de l'hommage national rendu à Samuel Paty dans la cour de la Sorbonne à Paris. Cérémonie qui sera retransmise en direct sur RFI.
J'ai dans le cœur entassé des plumes du velours et des lames en acier. Un peu de j'aurais dû et des tonnes de regrets. Quelques j'aurais pu, mais le train est passé. Là, c'est des cons, la foi s'est cassée. Vois sur ma face, le regard s'est glacé. Ivre de vie, je veux pas trépasser. Pas avant que l'amour ne vienne m'embrasser. Trop d'idées noires, j'ai le cœur encrassé. Mais j'ai l'âme d'un tigre, pas d'un bassé. Je défoncerai les portes qu'ils ont cadenassées. J'irai chercher bonheur là où il a tracé. Crime sur crime, bim bim bim. On se piétine pour atteindre la cime. Voilà le message qu'ils veulent nous lancer. Au fond d'une cage, ils veulent nous placer. Dis-moi que le pire, on l'a dépassé. Dis-moi que sourire, c'est pas déplacé. Ce monde part en couille, je peux pas l'effacer. Pose-moi cet iPhone et viens m'enlacer.
Y'a de l'amour en risée. Dis-moi quand est-ce qu'on le sait. Dis-moi quand est-ce qu'on le sait. Dis-moi quand est-ce qu'on le sait. Et tout ce temps que l'on perd, et toutes ces dents que l'on serre, on vit les égos froissés, on sait même plus s'enlacer. Tout ce temps que l'on perd, ces phrases affilées à germe, aucun enfant d'épargné au nom du père. Quand est-ce qu'on le sait.
Quand est-ce qu'on s'aime?
Dis-moi quand est-ce qu'on s'aime? Hey, vois tout ce qu'on s'aime.
Et vois tout ce qu'on s'aime.
Dis-moi quand est-ce qu'on s'aime? Hey, quand est-ce qu'on s'aime?
Quand est-ce qu'on s'aime?
Dis-moi quand est-ce qu'on s'aime? Hey, vois tout ce qu'on s'aime.
Et vois tout ce qu'on s'aime.
Dis-moi quand est-ce qu'on s'aime? Dis-moi quand est-ce qu'on s'aime. Dis-moi quand est-ce qu'on s'aime.
Dans toutes les bouches, y'a du peace et du love. Langue universelle chez les riches et les pauvres. J'aimerais savoir alors pourquoi des bombes, des pleurs, du sang, des cris et des tombes. Je trouve ça normal, on parade fier à la War Pride sur des chars militaires. Chanson de guerre, la main sur le cœur ou avec le C4 dans l'utilitaire. T'as spoté la menace, les princesses amères, la colère change.
C'était Quand est-ce qu'on s'aime de IAM sur RFI. Notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe de l'émission, Cécile Lavolo, Delphine de Dianous, Romain Dubrac à la réalisation et Raphaël Lazizi. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter nos émissions en podcast sur rfi.fr. Et demain, nous parlerons de la mémoire. Comment apprendre à tout âge, qu'elle soit visuelle, auditive ou gestuelle, tout le monde a une mémoire préférée qu'il faut déterminer le plus tôt possible pour de meilleurs apprentissages. Notre invitée Anne-Marie Guignard vous donne des conseils et des méthodes pour retenir avec facilité leçons, discours, listes de courses ou poésie. Les voisins, les voisines, on attend vos questions et vos témoignages. Dites-nous quelles sont vos difficultés ou vos moyens mémotechniques pour apprendre. Notre numéro WhatsApp 33 7 64 45 51 41. Et à 19h10, heure de Paris sur RFI, émission spéciale à l'occasion de l'hommage national rendu à Samuel Paty. Rendez-vous à 10h10 demain TU. D'ici là, bonne journée sur RFI.